Pardon, la première partie. Ce soir, nous abordons la première partie, l'évolution de la conscience critique. On a souvent l'occasion, à travers les années de recherche et de développement, de vivre le doute d'une façon assez aiguë en ce qui concerne souvent les relations avec la vie concrète, la vie matérielle, et les aspects de notre vie, donc les plus psychiques, plus occultes. Ce soir, nous serons donc demain à Montréal pour nous permettre de voir un petit peu plus clair dans les rapports qu'il y a entre le psychique et la vie matérielle. Nous serons donc demain à Montréal. Le sujet ce soir, c'est la conscience critique. La conscience critique versus la masse critique. L'évolution de l'art de différentes personnes est souvent soumise à des contradictions flagrantes. On l'a déjà souvent parlé, on est exposé à beaucoup de polarisation dans notre mental, de bien, de mal, de vrai, de faux. Et on est évidemment, dans ce tiraillement-là, on est souvent porté à vivre de la critique. Quand on parle de conscience critique, est-ce qu'on sous-entend qu'on a éventuellement accès à être conscient de ce que l'on critique, de ce que l'on fait vivre à d'autres, même de notre critique comme telle? Est-ce qu'un être qui se conscientise devient éventuellement conscient de ce qu'il critique?
La conscience critique, c'est très intéressant. La conscience critique, c'est un niveau de perception qui est basé sur la faculté intelligente supérieure de l'âme, qui lui permet d'atteindre un très très haut niveau d'objectivité, parce que les émotions sont pas impliquées, dans l'évaluation de n'importe quoi. Puis, ça permet à l'homme de critiquer, pas critiquer dans le sens subjectif, mais d'évaluer, de mesurer n'importe quoi, sur la connaissance ou des événements, ainsi de suite, par rapport à lui-même. Une conscience critique, c'est une conscience totalement personnelle. C'est totalement personnel, c'est très personnel, c'est transpersonnel, dans le sens que ça relève du lien entre l'homme et sa source, ça préconise un besoin pour l'homme, ça implique une relation étroite entre l'homme et sa source afin qu'il puisse avoir une intelligence très, très, très vaste d'un phénomène qui est très petit ou d'un phénomène qui est très grand. La conscience critique, c'est une inévitabilité chez l'homme. Plus l'homme va devenir conscient, plus il va la développer, cette conscience critique-là. Ce qui va l'empêcher de la développer, sa conscience critique, c'est sa personnalité, c'est ses émotions, c'est son inhabilité ou son incapacité de traiter du phénomène, que ce soit n'importe quoi, à partir de sa vision ultimement universelle. Et ça ne sera pas facile parce que pour développer une conscience critique, il faut presque complètement se situer au-dessus des valeurs ou des dispositions qui relèvent de l'évolution. Donc un homme qui est dans une conscience critique, automatiquement ne fait plus partie de l'évolution de l'humanité. Il est totalement individualisé. Ça ne veut pas dire qu'il ne respecte pas le passé, ça ne veut pas dire qu'il ne respecte pas les perceptions de l'évolution ou des races évolutives, mais ça veut dire qu'il a la capacité de transiger avec le devenir du phénomène. Donc, bon, si on prend, je vous donne un exemple, là. Si on prend les connaissances occultes ou les connaissances ésotériques qui flottent un peu partout dans le monde, en Europe ou au Tibet, un homme qui a une conscience critique est capable, sur le champ, d'évaluer la valeur formative de ces informations-là, dans le sens qu'il est capable de se dissocier émotivement de l'information et de la restructurer pour le bien-être de la race. Bon, supposons par exemple que quelqu'un, un homme conscient, par exemple, qui irait en France rencontrer des exégètes à Paris, et ainsi de suite, qui ferait un gros séminaire sur la réincarnation, par exemple. Bon, un homme qui a une conscience critique, à ce moment-là, serait capable de tout redéfinir ce qu'on appelle, nous autres, réincarnation dans le monde occidental, dans le monde oriental. Donc, il passerait de ce qu'on appelle la connaissance, qui est une accumulation de perception, et il rentrerait directement dans le savoir. C'est-à-dire qu'il entrerait dans des niveaux de conscience suffisamment subtils pour pouvoir réellement fracturer la forme et lui donner une nouvelle vie. Donc, un homme qui a une conscience critique ne peut jamais être envahi ou rendu fait prisonnier d'une forme. La forme ne colle pas avec lui, parce que c'est un esprit libre. Donc, un être d'une conscience critique n'est pas intéressé à la connaissance. Il est simplement dans la vibration de sa conscience, donc il a accès à un savoir qui est très vaste, qui va venir, qu'il va canaliser au fur et à mesure où il se met en vibration. Et à ce moment-là, il peut jeter de la lumière sur ce qu'on appelle de la connaissance, pour faire évoluer la connaissance, pour que l'homme éventuellement passe de la connaissance au savoir, et ainsi de suite. Donc, pour avoir une conscience critique, ça demande énormément de centricité. Tu peux pas avoir une conscience critique et fonder ce que tu sais sur ce que l'humanité sait. Tu peux respecter ce que l'humanité sait, mais tu ne peux pas fonder ce que tu sais sur ce que l'humanité ont perçu pendant des siècles. Et cette conscience critique-là va permettre à l'homme, finalement, de redéfinir la forme, c'est-à-dire de réencadrer la connaissance, reformuler la connaissance, en allant dans des registres de conscience plus avancés pour lui permettre, et permettre à cette humanité, de finalement se désengager de la conscience de la race. C'est ce que ça fait la conscience critique. Quand tu as une conscience critique, tu n'appartiens plus mentalement à la race humaine évolutive 5e. Tu appartiens à un autre niveau d'évolution, à un autre niveau d'évolution, qu'on appelle aujourd'hui la 6e race racine. Donc, c'est un phénomène extrêmement important. Ça fait partie de l'évolution, ça fait partie de la transmutation des corps. Ça nécessite une grande gestion de son énergie mentale. Une grande gestion. Parce que tu ne peux pas vivre le doute quand tu as une conscience critique. Par contre, ça demande une grande gestion de l'énergie mentale parce que ça demande que l'homme soit suffisamment habilité pour pouvoir, par lui-même, en fonction de sa science interne, qui est universelle, mais que lui, dans un certain temps, à laquelle il peut accéder, mais toujours en respectant la connaissance de l'évolution, la connaissance de l'humanité. Un homme qui a une conscience critique ne peut pas aller dans le monde puis aller en guerre. Tu ne vas pas en guerre. D'abord, quand tu as une conscience critique, tu n'es pas intéressé à avoir une mission. Tu n'es pas intéressé à changer l'humanité. Tu es intéressé simplement à vivre un rapport de plus en plus étroit entre toi-même puis les circuits universels, la source. Fait qu'à ce moment-là, mais tu deviens extrêmement diplomate. Extrêmement diplomate, ça veut dire que tu deviens très habilité à pouvoir laisser aux hommes ce qu'ils sont en mesure pour le moment d'affectionner au niveau de la forme, la connaissance, et de donner à d'autres hommes ce qu'ils sont en mesure, eux, de saisir au niveau de la forme. Puis c'est ça qui va permettre finalement à l'être humain de passer l'involution à l'évolution, de nettoyer un petit peu l'astral des sciences ésotériques, pour que finalement les âmes, quand tu parles d'une chose, que ce soit ésotérique ou que ce soit exotérique, que ce soit de la politique universelle, cosmique, que ce soit de la politique planétaire, etc., n'importe quoi, que les âmes aient réellement une objectivité intégrale dans leur perception, puis qu'ils puissent se comprendre instantanément, parce qu'il faut. Le problème avec la connaissance aujourd'hui, c'est que les hommes ne sont pas capables de se comprendre, parce que la connaissance est tout pasteurisée.
Mm-hmm.
Puis, alors que le savoir n'est pas astralisé, il n'est pas astralisable, il appartient pas à l'ego, l'ego ne peut pas s'approcher avec ça. Donc une fois que l'homme a une certaine conscience vibratoire, c'est facile pour lui de comprendre un autre homme qui a une conscience vibratoire, puis ensuite les deux ensemble explorer l'univers très vaste du mental et de l'architecture.
Alors, quand une personne a une conscience critique, généralement, elle est percutante pour une personne, en guillemets, évolutive. Elle est percutante parce qu'elle a de l'assurance, elle a de la certitude, elle est généralement extrêmement précise. La personne qui, elle, n'est pas dans une conscience critique, mais qui a un esprit, disons, critiqueux, qu'est-ce qui doit se passer pour pas qu'il y ait de conflit? Qu'est-ce qui doit se passer pour pas que la personne qui a une conscience critique déclenche ni plus ni moins le côté critiqueux de l'autre?
Ça dépend de son ego. Qu'une personne soit critiqueuse, qu'une personne ait les deux pieds dans l'évolution de la connaissance, ça c'est une chose. Mais ce qui est un esprit ouvert, ce qui est un esprit ouvert, à ce moment-là, la conscience critique ne passera pas à un autre niveau de choc vibratoire. Mais s'il y a trop d'ego, s'il y a un mur, la conscience critique va passer au travers. Parce que la conscience critique permet à l'homme de passer dans un niveau de fusion. Quand tu es dans une conscience critique, tu peux passer dans un niveau de fusion presque instantanément. Fait qu'à ce moment-là, l'énergie passe, puis il va créer un choc à un esprit rationnel, têtu, qui obstrue le passage de cette lumière-là. Mais si l'homme a un bel esprit, ou si l'homme a un certain esprit, ou si l'homme a de l'esprit, à ce moment-là, la conscience critique peut être très, très, très patiente, puis travailler à passer à travers de l'homme, puis être capable de passer à travers de l'homme, parce que à cause de sa précision, à cause de son objectivité, il n'y a pas d'ego d'une conscience critique. Tu sais.
Mm-hmm.
Puis par cause d'une conscience critique, c'est très... c'est ce qui lui donne sa qualité, sa force, c'est que elle n'appartient pas à l'homme. Tandis que la conscience critique, comme vous l'avez dit, elle appartient à l'homme, elle fait partie de sa personnalité, elle fait partie de son intégrité. Dans la conscience critique, il n'y a pas d'intégrité. Donc à ce moment-là, un homme qui a une conscience critique, même si on lui demande d'évaluer des niveaux de connaissance dans le monde qui ont été sanctionnés par l'histoire, qui ont des milliers d'années de fondation, et tout, la conscience critique va le faire éclater instantanément sur le champ. Parce qu'un homme qui est dans une conscience critique, sur le plan universel, c'est un initié. C'est un petit initié, un grand initié d'après la présence. La conscience critique, c'est une conscience initiatique, puis ça recule devant rien, ça, la conscience critique. Puis, par contre, au fur et à mesure où l'homme va faire une bonne gestion de son énergie au niveau de ses émotions, son mental, à ce moment-là, il va garder sa conscience critique pour lui-même. Il va l'utiliser pour lui-même, il va l'utiliser pour ses pairs, il va l'utiliser pour ses amis, pour les gens avec lesquels il y a un rapport d'égal à égal au niveau de l'esprit, pour pouvoir ensemble, eux, étudier le monde extrêmement infini de la connaissance objective, donc le savoir. Une fois que la conscience critique est très développée, l'homme aura plus le goût de perdre son temps. Il n'aurait plus d'ailleurs l'énergie de perdre son temps avec des esprits qui sont encore là, piégés par la conscience critique, une conscience subjective, émotive, raciale. Bon, c'est sur l'insécurité, c'est
bon. Bon. Une personne comme vous, on ne discute pas le fait qu'elle a une conscience critique. Vous partez sur un sujet, vous le développez à l'infini, vous pouvez parler deux jours de temps. Comment un individu qui est en voie d'accéder à une conscience critique peut savoir qu'il a un acquis de conscience critique?
Ah, intéressant. Une personne qui a un acquis de conscience critique ou la mesure de cet acquis-là, c'est sa capacité de supporter l'absence de doute. Donc, si vous traitez avec des niveaux de savoir qui sont très, très occultes, parce que la vie, c'est très vaste, à ce moment-là, l'homme, à cause de son corps émotionnel, son corps astral, son imagination, va avoir tendance à peut-être avoir un petit doute, même si le doute n'est pas psychologique, il peut être vibratoire, il peut avoir un petit doute par rapport à ce qu'il dit, il peut avoir un petit doute par rapport à ce qu'il dit. Et ça fait partie de l'évolution de sa conscience critique. Donc on peut pas rentrer dans une conscience critique sans vivre un petit peu de ce doute-là au fur et à mesure qu'on avance, parce qu'éventuellement, on rentre dans des territoires qui sont d'abord inexplorés, qui n'ont pas été explorés par l'humanité. C'est une mise en chantier. C'est pas ça dans une forêt. C'est totalement neuf. Fait que, il y a des choses que l'humanité sait, il y a des choses que l'humanité ne sait pas. Fait que quand tu rentres dans des domaines de connaissance ou de savoir ou de science qui ne font pas partie des registres de l'humanité présentement, à ce moment-là, l'homme en tant qu'individu peut vivre un petit peu de doute. Non, mais ça fait partie de son évolution, ça fait partie de la séparation de son corps émotionnel, de son corps mental, ce qui crée la fameuse conscience critique. Ça peut durer un certain nombre d'années. Il peut rencontrer des gens qui sont très, très, très forts en sciences occultes, ainsi de suite. Puis là, il va être mis en vibration, puis il va vivre un petit peu de doute, ainsi de suite. Puis ça, éventuellement, il va le brûler. Ça fait partie de la transmutation des corps. Ça crée une souffrance. Il y a une sorte de souffrance psychique reliée au développement de la conscience critique. Parce que douter, c'est souffrir. Douter, c'est souffrir dans le sens que quand on doute de quelque chose, ça veut dire techniquement qu'on n'a pas la maîtrise totale de ce que l'on sait. Mm-hmm. Donc, pour un homme qui a une conscience vibratoire, ne pas avoir la maîtrise totale de ce qu'il sait, c'est-à-dire ne pas être capable de confronter de façon absolue, pas relative, de façon absolue, ce qui est su ou ce qui est connu par rapport à ce que lui dessert sur le plan matériel, ça devient du trans. Mm-hmm. Fait que la fonction de la conscience critique, c'est de descendre sur la terre, autrement dit, de la conscience de l'humanité, des notions qui ne font pas partie de la conscience de l'humanité. Fait qu'à ce moment-là, l'homme est pris en sandwich. Il est pris en sandwich, il est pris par rapport à ce que l'on sait, ce que beaucoup, des milliers ou des millions d'individus ou des systèmes ou des religions ont maintenu comme étant ça. Puis lui, il est obligé de descendre d'une vibration pour fracturer ça, pour désastraliser la conscience, désastraliser la connaissance. C'est ça que ça fait, la conscience critique. La conscience critique, ça désastralise la connaissance, et tant que la connaissance sur la Terre, surtout la connaissance occulte, ne sera pas désastralisée, ben, on aura des religions, on aura des sectes, on aura des maîtres, on aura des métaphysiques. Qui sont nécessaires pour le moment. Mais qui un jour devront être mis de côté par un homme parfaitement, totalement individualisé. Parce qu'un homme, qui est totalement individualisé, n'a plus besoin de religion, il n'a plus besoin de métaphysique, il n'a plus besoin de science occulte, il n'a plus besoin de maître. Il est simplement un point de lumière qui vit, qui travaille, qui crée. Ça, c'est ce que j'appelle la conscience.
Bon, il y a des gens, Bernard, qui vous ont accompagné depuis déjà au moins 14 ans. Votre instruction, le flux de votre instruction a marqué de nouvelles mémoires. Est-ce que ces gens-là qui sont liés à la mémoire de votre instruction ont une conscience critique réellement personnelle? Ou si ce ne sont pas des gens qui sont appelés à ni plus ni moins répéter par mémoire les affirmations que vous-même avez données et vous avez examinées? En d'autres termes, est-ce que de la conscience critique, ça fait toujours parler du neuf hors de la mémoire? Est-ce qu'une personne, exemple, qui aurait une conscience critique dans cette salle, dirait des choses que vous n'avez jamais dites?
Oui. Mais c'est ça la fonction de la conscience critique. La conscience critique va créer une mémoire parce qu'elle détruit des formes, donc elle va créer d'autres formes ou réarranger des formes, donc elle crée une nouvelle mémoire. Par contre, l'homme qui est en évolution de conscience, au fur et à mesure où il avance dans sa conscience, en arrivera éventuellement à avoir une conscience critique parce qu'il sera obligé un jour de se séparer de l'instructeur. Les hommes, un jour, seront obligés de se séparer temporellement, psychologiquement, de l'instructeur pour entrer dans leur individualité. Un instructeur, c'est un événement dans le temps, c'est un événement nécessaire dans le temps. Mais un jour, faut que l'homme en arrive à réaliser la parfaite domination de sa conscience sur la forme. L'instructeur, c'est simplement
un déclencheur.
Donc, l'instruction, c'est un déclencheur. Et l'homme doit en arriver un jour par lui-même à pouvoir la vérifier, cette conscience critique-là, et dire des choses ou écrire des choses qui n'ont jamais été dites. Et ça, c'est une fois que l'homme sera rendu là, mais la science occulte sur la Terre deviendra très vaste. Parce que un instructeur ne peut pas, même si sa vie occulte dure tant d'années, un instructeur ne peut pas toucher à tous les domaines de la vie. C'est infini. Donc, il y a d'autres hommes qui le font, il y a d'autres hommes qui le font en architecture, il y a des hommes qui le font en science, il y a des hommes qui le font en médecine, il y a des hommes qui le font en psychologie, etc. Donc, un instructeur, c'est simplement un master key. Puis ensuite, tu as d'autres clés. Alors, les hommes doivent en arriver à vibrer leur propre conscience. Un homme qui vibrera sa propre conscience, rentrera dans une conscience critique, deviendra créatif, et à ce moment-là, ce qu'il fera au niveau de ce qu'il a à faire, qui fera partie de sa destinée, bon, ben, ça deviendra plus l'humanité des nouvelles connaissances qui seront désactualisées et qui font aussi partie des architectures du mental. C'est très important que l'homme en arrive à être totalement dans l'évolution libre de ceux qui, dans le temps, ont eu une fonction d'ouverture. Sinon, on retombe encore dans les mêmes registres de l'évolution. Maître tel, puis dans l'évolution future, l'homme doit s'individualiser, ça veut dire qu'il doit développer une masse critique suffisamment puissante pour que sa conscience devienne elle-même, par elle-même, pour elle-même, un faisceau de lumière sur la Terre.
Bon, devenir un faisceau de lumière, on peut dire que vous le démontrez régulièrement, votre crédibilité est établie. Comment un individu qui a vécu une forme d'instruction en arrive à se bâtir une crédibilité avec cette conscience critique?
Il va le faire dans la mesure où il va respecter les principes qui ont été inscrits dans l'instruction. Dans l'instruction, par exemple, ça a été dit depuis des années de temps, dans l'évolution future de l'homme, ce sera extrêmement fondamental que l'homme respecte l'homme. Quelle que soit la sensibilité ou la grandeur d'être d'une personne, un être conscient, là, qui fait partie de l'évolution future, qui ne comprendra pas la fondamentale de respecter un être, tout être humain, surtout les êtres avec lesquels il est en relation. Le respect de l'homme, qui fait partie de l'amour du mental, ne pourra pas arriver à avoir une conscience critique parce que il va déjà astraliser son intelligence. Puis, à ce moment-là, il peut facilement occulter son intelligence, puis il peut facilement tomber dans des aspects nocturnes de cette énergie-là. Puis, techniquement, si on regarde techniquement, il pourra en arriver éventuellement à développer sur le plan matériel une certaine dictature psychologique ou même psychique par rapport aux hommes. Donc, pour que l'homme bénéficie d'une conscience critique, une conscience critique, c'est très fort, c'est très puissant, c'est abominable, une conscience critique. Dans le sens qu'il n'y a rien qui résiste au niveau psychologique, okay, à cause de la fusion. Alors, si un homme n'a pas de respect pour l'homme, automatiquement, la conscience critique deviendrait, dans un cas comme ça, un outil luciférien. Ça deviendrait un outil d'extrême domination sur la Terre. Et les hommes qui seraient affectés par une conscience critique comme ça, là, n'auraient pas la force de s'en sortir, à moins de tomber malade, de réellement perdre toutes leurs ressources. Donc, le respect de l'homme, c'est fondamental dans l'évolution de la conscience supramentale, et c'est encore plus fondamental lorsque l'homme en arrivera à développer une conscience critique. Sinon, vous aurez une grande force mentale, vous serez capable de réellement jouer avec la force. Jouer avec la forme, vous deviendrez des adeptes de la forme, des grands manipulateurs de la forme, mais en même temps, vous manipulerez l'homme. Si vous manipulez l'homme, vous ne le respectez pas. Que vous soyez capable de fracturer la forme, retravailler la forme, un peu comme les computers font, là. Tu peux faire ce que tu veux avec la forme. Ce qui fait de la partie de la conscience critique, la lumière, autrement dit, à travers l'astral de la forme. Mais si vous ne respectez pas l'homme de façon intégrale, et quand je dis intégrale, je veux dire sans condition. Si vous ne respectez pas l'homme sans condition, éventuellement, votre conscience critique deviendra une conscience critiqueuse à un très haut niveau. Et à ce moment-là, vous deviendrez des êtres de domination malgré vous-même, puis vous ne le verrez même pas. Donc, vous serez dangereux malgré vous-même.
C'est quoi la caractéristique? Parce que je pense que tout le monde, dans un sens, veut être respecté. Mais c'est pas évident que tout le monde peut respecter l'autre. On veut tout être respecté, mais on a la difficulté à respecter. Est-ce qu'il y a une caractéristique qui nous permettrait d'avoir comme une lumière rouge quand on respecte pas? Quand on critique l'autre puis on le domine sans s'en rendre compte, parce que c'est le phénomène de l'inconscience de la domination qui est le problème, surtout dans les gens.
Si vous faites souffrir une personne, vous le respectez.
Qu'est-ce qu'on fait des gens qui nous manipulent avec leur souffrance?
Des gens qui nous manipulent avec leur souffrance.
Tu me fais souffrir, grosse accusation, culpabilité. Tu me respectes pas, tu m'aimes pas.
Ouais, mais c'est pas de ça que je parle.
Ouais, mais c'est ce qu'on
Je parle de l'homme qui, à travers son action, fait souffrir. Quand, à travers votre action, vous faites souffrir, à ce moment-là, il y a un manque de respect.
Parce que bien les nuages de mort qui font qu'à un certain moment donné, on est mis en vibration, on est dans une intention.
Même une personne qui va dire, bon, mais tu le fais souffrir, une personne qui va dire, tu le fais souffrir, même si vous dites, même si elle est très astrale, la personne, elle vous manipule, comme vous dites, ça fait partie de son inconscient. Mais si elle est capable de dire ça, c'est parce qu'elle a souffert depuis quelque part. Si vous ne craignez pas de souffrance, la personne ne vivra pas de souffrance.
Ça commence à être subtil, là. Ça veut dire que quand on a de la conscience critique,
vous ne pouvez pas vous cacher, indéfiniment derrière le fait que l'être humain est astral. L'être humain est astral, l'homme est faible, l'homme n'est pas centrique, l'homme n'a pas de conscience. Bon, OK. Mais vous-même, dans votre action, quand vous faites souffrir un être, même si son interprétation de la souffrance est réellement grossièrement fiée, il y a souffrance.
Wow.
À partir du moment où vous faites souffrir un être humain, il y a un manque de respect.
Wow. Là, ça va bien, mais là, qu'est-ce qu'on fait, là?
À ce moment-là, vous avez plus de problèmes, si vous comprenez ça. Si vous ne comprenez pas ça, vous avez des problèmes, puis c'est ça qui est à la base de vos problèmes, normalement. On parle de conscience critique.
Ouais.
Bon. C'est évident qu'un être humain normal ne va pas interpréter la valeur de la souffrance importée chez un autre ou exportée chez un autre d'une façon objective, parce que l'être humain a tendance, pour toutes sortes de raisons qui font partie de la polarisation de son mental, à vivre à l'intérieur des lois de compensation. Mais quand une conscience critique, il y a des lois dessus. Ça fait partie de la conscience universelle. Donc, si l'homme fait souffrir l'homme, à ce moment-là, il y a un manque de respect. Là, vous allez dire, ben, on peut faire souffrir les hommes, puis on s'en rend pas compte. Je suis d'accord. On peut faire souffrir l'homme, puis on s'en rend pas compte. Mais éventuellement, vous allez plus vous en rendre compte, parce que si vous faites souffrir l'être humain, c'est parce que vous êtes astralisé. Si vous n'étiez pas astralisé, vous ne feriez pas souffrir l'homme. C'est votre astral, c'est l'âme qui a encore un pouvoir sur votre conscience mentale qui vous permet de faire souffrir l'âme. Mm-hmm. Quand tu arrives à la maison, soir, ta femme a brûlé ta soupe. Mm-hmm. Le mouvement normal, c'est de dire, t'as brûlé ma calice de soupe. Mm-hmm. Fait qu'elle, elle s'en va dans son coin, puis elle pleure. Ou avant de t'en faire un autre. Fait que, mais si tu rentres à la maison, elle a brûlé ta soupe, puis tu rentres à la maison, tu dis, ah, t'as brûlé la soupe, bon, on va aller chez McDonald's. On va chez McDonald's. Ça, c'est pas frère souffrir, ça là. Mais vous autres, vous allez l'engueuler. Là, l'exemple stupide. Pour une crise de ça. Puis après ça, elle va pleurer. Puis après ça, vous allez vous raccorder la lunette. Puis ça va recommencer à se manger. Avec d'autres hommes. Fait qu'on fait ça tout le temps pendant la vie. Fait comment voulez-vous qu'on en arrive à se créer des couples? Puis qu'on arrête de vouloir être heureux avec nos femmes et nos maris au lieu d'être simplement bien dans notre peau. Mm-hmm. Fait que. Vous ne pouvez pas passer à côté, vous ne pouvez pas jouer dans l'évolution, vous ne pouvez pas jouer avec la polarité de votre conscience astralisée pour découvrir des principes d'esprit ou des principes ouverts sur l'esprit en ce qui concerne votre relation humaine. Vous faites souffrir l'âme, il y a un manque de respect, c'est final, c'est final.
Alors, on parle souvent de contact avec la source. Quand on est en contact avec
la source. Non, je veux pas utiliser ça, là. Là, vous allez dire, bon, ben, OK, bon, c'est correct, on fait souffrir l'homme, il se passe qu'il manque de respect dans notre personne par rapport à lui. Mais supposons qu'on ne le voit pas. Ah. Que vous ne le voyez pas, je ne crois pas. Parce que l'autre, il va pleurer. L'autre, il va déprimer. L'autre, il va avoir de la crainte. L'autre, il va se sentir dominé. L'autre, il va toujours vous renvoyer, parce qu'on est des radars. L'autre, il va toujours vous renvoyer un message que vous pouvez interpréter à votre guise ou que vous pouvez interpréter pour sa guise. Il y a bien du monde qui vont faire les choses, l'autre autour de lui souffre, puis les gens vont dire, qui mange la mort, c'est son expérience.
C'est fréquent.
La relation qu'il y aura avec des hommes sera une relation réellement très, 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 très équilibrée, très vivante, très créative, très permanente, très substantielle.
Vous parlez de gestion de ces énergies. Quand vous êtes mis en situation par votre souffle, qu'est-ce que vous avez comme contrôle par rapport à ce qui nous oblige à vivre?
Le contrôle, vous l'avez au fil. Alors, ça, c'est intéressant, cette question-là, vous me posez. Le contrôle que vous avez sur votre source, il est proportionnel à votre capacité de ne pas faire souffrir l'âme. Autrement dit, dans l'évolution, à travers les religions, les systèmes métaphysiques, les sciences occultes, l'homme a toujours considéré la source comme étant une source spirituelle. Dans l'évolution, l'homme considéra ce qu'on appelle la source comme une source simplement de manipulation de ses énergies. Fait que quand l'homme aura réellement une conscience très avancée de l'invisible, il comprendra que le rapport étroit entre lui supérieur et lui sont des rapports de gestion de son énergie, qu'on peut même appeler jusqu'à un certain niveau une sorte de vampirisme extraordinaire, très sage, très scientifique, parce que ce qui est en haut veut coller avec ce qui est en bas, donc ce qu'on appelle la fusion. Et l'homme devra en arriver éventuellement à réellement maîtriser la décharge d'énergie qui vient de ces places derrière-là vers lui. Et ça, il va l'apprendre à travers un principe qui va encore plus loin que le principe de l'amour du Christ. Parce que le principe de l'amour du Christ, qui était donné quand il est venu, c'est un principe qui ne pouvait pas être connu sur la terre pendant que l'homme avait des énergies astralisées. Quand je dis, quand vous respecterez l'homme, complètement, au fond, ne pas le faire souffrir, c'est ça que vous, c'est là que vous comprendrez le principe christique de l'amour, ce qui ne va pas être compris dans l'évolution. Donc, un homme qui respecte l'homme par le sens d'une conscience mentale supérieure, automatiquement actualise sur le terre ce qu'on appelle l'amour. Et si l'homme ne le fait pas, l'homme ne pourrait pas en arriver à maîtriser ses énergies parce qu'il y aura toujours en lui une partie de sa conscience, de son être, à laquelle il donnera plus de valeur que sa relation avec les hommes. Si vous ne comprenez pas, un jour, les ésotéristes, les occultistes, tous ces gens-là qui sont techniquement marginales de la conscience, de la connaissance marginale, la connaissance rationnelle, si vous ne comprenez pas un jour les hommes qui sont en évolution spirituelle, que les êtres humains, l'amour que vous devez porter à l'être humain est plus important que l'amour que vous portez pour les forces, vous serez toujours manipulé par les forces et vous ne serez jamais capable de complètement intégrer leurs énergies. C'est une illusion spirituelle puissante de l'évolution que l'homme doit aimer l'invisible. Et ça sera reconnu un jour, ça sera compris un jour. Il n'y a pas d'amour. L'amour que le Christ a amené sur la terre, c'était le principe de l'amour, c'était un principe d'alliance entre les hommes. Ce n'était pas un principe d'alliance entre l'homme et l'invisible. La seule relation qui doit exister ou qui existera un jour entre l'homme et les supérieurs, ça sera une relation d'énergie vibratoire où l'homme aura la capacité, à cause de sa conscience critique, d'intervenir instantanément dans le partage des pouvoirs entre l'invisible et la matière. Sur le plan matériel, dans le corps matériel, dans l'incarnation matérielle, les hommes devront, au cours de l'évolution, comprendre que l'amour, le principe de l'amour, c'est un principe dont l'origine est cosmique sur le plan de sa vibration, mais dont la finalité est planétaire sur le plan de sa fonction. Si les hommes perpétuent le mythe évolutif d'aimer l'invisible, d'aimer les supérieurs, quels que soient les noms que vous donnez à ces êtres-là, qu'ils soient dans les formes, dans la sphère spirituelle ou qu'ils soient dans d'autres dimensions du cosmos universel, l'homme sera automatiquement perturbé dans son énergie, l'homme n'aura pas la capacité de faire la gestion de son énergie et l'homme n'aura jamais les pouvoirs de l'aligner sur la terre.
Les gens sont pris avec le fait que dans votre instruction, quand on parle d'amour, d'amour humain, en tout moins, on est confronté à une initiation astrale assez importante. Il y a un jeu de polarité dans le phénomène de l'amour et de la haine. Et quand on parle d'amour, comme vous le dites, on parle d'un amour où il y a un facteur de respect qui est beaucoup plus froid que l'amour humain dont on parle. Mais on utilise toujours le mot amour. Il y a une confusion.
Vraiment. J'aime mieux le terme respect que le mot amour, parce que pour le moment, le mot amour, c'est un terme qui fait partie du mouvement de l'évolution. Puis d'ailleurs, la chiffrerie du mot amour sur les plans, c'est 777. Donc si vous regardez dans les archives, la chiffrerie 777, c'est le principe de l'amour, puis 777, en tant que principe cosmique, non planétalisé, parce qu'on n'est pas dans une conscience, devient 666 à l'envers. Parce que les hommes, si les hommes avaient compris le principe christique de l'amour, en tant que principe 777, on n'aurait pas sur la Terre survécu, heureusement, pendant des siècles, à la domination des forces alimaniennes, qui est le 666 sur la Terre, tout en relation avec le principe de l'amour. On a eu des guerres de religion au niveau de Dieu, on a eu des guerres fondamentales au niveau des religions, on a eu des guerres fondamentales au niveau de l'amour pendant des siècles, parce que le principe de l'amour, dont la chiffrerie est 777, a toujours été juxtaposé à la conscience astrale de l'âme, donc a toujours fait partie de la programmation de l'âme, n'a jamais fait partie du pouvoir de l'esprit sur la terre. C'est pour ça que l'évolution n'a jamais été capable de prescrire à l'humanité des règles fondamentales concernant ce principe de 777-là. Donc l'amour n'a jamais été compris, il a été bafoué, les peuples ont été divisés, des barrières ont été élevées entre les nations, et au nom de l'amour, on a divisé l'humanité, on a séparé les religions, et on a totalement permis aux forces de l'astral de rentrer, de prendre un très grand pouvoir sur la terre. Et un jour, l'homme va être obligé de corriger ça, puis il va le corriger quand il va cesser d'aimer les forces. Vous ne pouvez pas aimer les forces. C'est anti-homme, c'est anti-adamique d'aimer les forces. Puis pendant l'évolution, les hommes qui ont traité dans les sciences occultes, ésotériques, marginales, spirituelles, tout ça là, les hommes ont constamment spiritualisé leur conscience, donc ils ont aimé les forces. Ils ont été extrêmement, extrêmement courts sur le respect de l'homme. Donc, automatiquement, conséquemment, il y a eu un abus de pouvoir occulte dans les sciences ésotériques. L'homme n'a jamais été libéré des sciences ésotériques. L'homme n'a jamais atteint un niveau de conscience critique suffisamment développé pour finalement comprendre que l'amour, le principe 777, ne peut s'appliquer que sur une planète en horizontale, ne doit jamais s'appliquer sur une planète en verticale, et que les forces occultes, que ce soit les forces astrales ou que ce soit les forces qui font partie des architectures du mental, doivent un jour servir l'homme. Comment voulez-vous que les forces de l'invisible servent l'homme si l'homme les aime? C'est impossible, parce que l'homme va utiliser les énergies astrales de sa conscience, donc il va utiliser automatiquement les points saillants de son âme. Donc, la chaleté, l'humilité, la spiritualité, les qualités, ce que vous appelez les autres, les vertus, toutes les vertus, et les vertus, au lieu de lui donner de la puissance, vont faire de lui un être assimilé par les forces astrales. Si vous regardez les hommes dans le monde qui ont de la vertu, ils n'ont pas de force. Toutes les vertus sont en mer. Les bandits n'ont pas plus de force, même si cette force-là est astrale. Donc, l'homme sur la terre qui est supposé être vertueux, bon, il s'évertue à être bon, puis toute sa vie, c'est un niaiseux. Fait qu'il n'en arrive jamais à se créer une fondation solide sur le plan matériel, dans la matière, par rapport à la science, par rapport à la construction, par rapport à l'évasion des femmes, par rapport à la permanence des femmes, qui en même temps intégrer l'énergie de l'invisible, donc des forces occultes, pour que lui puisse éventuellement pouvoir leur commander et amener cette lumière dans le monde pour qu'un jour l'homme ait accès à une résonance vibratoire suffisamment avancée pour qu'à travers la conscience de cellules, ils soient capables de guérir le monde animal, qu'ils soient capables de guérir le monde biologique, qu'ils soient capables de donner une autre vibration à l'atome pour créer des nouvelles structures moléculaires à partir de son mental pour éventuellement en arriver à avoir une nouvelle science. Donc, il y a des lois qui sont prescrites dans le monde aujourd'hui qui font partie de l'institution. Ces lois-là font partie d'un territoire avancé de la conscience, mais il y a parmi ces lois-là des principes fondamentaux qui ne peuvent pas être mis de côté, d'ailleurs que l'homme ne pourra pas mettre de côté, parce que l'homme conscient, plus l'homme va devenir conscient, plus il va s'apercevoir que le respect de sa personne, c'est intégralement nécessaire à sa sensibilité d'être. Donc, aujourd'hui, l'homme est des bafoues, vous le respectez, vous ne le respectez pas, il ne le respecte pas. Mais il va venir un jour que l'homme conscient va avoir suffisamment de conscience critique que si vous ne le respectez pas, il va vous crisser un astuce là, à ce moment-là, vous allez comprendre qui c'est que le pouvoir cet homme officiel. L'homme ne peut pas indéfiniment se faire bafouer par le manque de respect, par des êtres qui manifestent par rapport à lui une certaine précédence, un certain avancement, une certaine science, un certain ci, un certain ça. Le respect, ça ne se disputera pas demain dans l'évolution. Ça, ça va se faire entre les individus, ça ne va pas se faire sur une tribune publique. Puis vous verrez qu'au niveau des individus, là où il n'y aura pas de respect de l'homme, il n'y aura pas de croissance de la conscience, donc il n'y aura pas de possibilité de manifestation de la conscience critique. Point final. On ne peut pas penser à cause de ça. C'est pas une affaire que si ça, ça fait partie des instructions, ça fait partie des lois de la conscience universelle, ça fait partie des lois de ce que vous appelez, vous autres, l'amour en tant que principe 777. Il n'y a rien à voir avec ça. C'est fondamental. Pendant l'évolution de l'humanité où l'homme n'a pas été capable de d'appliquer les lois de l'amour, donc les lois du respect, parce que pendant l'évolution, l'homme était trop astral, trop ignorant. Dans l'évolution, l'homme conscient va appliquer sur la Terre, dans ses relations humaines, les lois de l'amour, donc les lois de respect avec les hommes avec lesquels il y aura des relations. Et je peux vous dire une chose, ces lois-là sont tellement, mais tellement irréductibles que les hommes qui ne vivront pas le respect en eux sont totalement bannis et mis de côté dans ces sociétés-là. C'est inévitable.
Mm-hmm.
Inévitable. Parce qu'il n'y aura jamais sur la Terre de... Il n'y aura jamais sur la Terre de retour à ce que j'appelle la magie astrale. L'homme nouveau, ce sera réellement un être supérieur, intégral, réel, fondamental. Il n'y aura pas de tapenage, il ne sera pas astralisable. Donc, si l'homme n'est pas capable de respecter l'homme ou apprendre graduellement à respecter l'homme pour en arriver à faire une grande gestion de son énergie, parce que faut faire ça demande une grande gestion de son énergie de respecter l'homme. Le gars qui arrive chez eux, soir, comme sa femme a brûlé sa soupe, là, faut que ça ait prendre un petit peu de gestion de son énergie pour l'envoyer chier. Quand on a des relations un petit peu qui sont pas notre affaire, ça prend une grosse gestion de notre énergie pour faire une guerre psychologique et des autres. Donc vous allez voir qu'avoir le respect ou respecter l'homme, c'est réellement un travail de grande envergure. Puis au lieu de au lieu de passer votre temps à voir si vous êtes évolué, puis à vous occuper d'évoluer, passez donc votre temps à voir si vous respectez l'individu. Puis je peux vous dire une chose. L'homme qui en arrivera un jour à travailler un à ce niveau-là, à pouvoir respecter l'homme, et à haïr les postes, automatiquement, il y aura une conscience comme ça. Il y aura une conscience humaine.
Maintenant, j'ai une personne, une fois qu'il m'arrive, elle me dit...
Parce que vous autres, vous passez à travers, se conscientiser, se développer, se faire de la recherche, se perfectionner, passer votre temps là, à jardiner dans vos crises de vie psychologiques. Là. Puis pendant ce temps-là, là, vous êtes bien plus intéressant à savoir ce qui se passe au niveau de l'évolution, les systèmes. Celui qui va arriver à le Jupiter, qui se fait bombarder, ça veut dire quoi, les extraterrestres. Regardez-nous, là, dans votre expérience de tous les jours, quand vous allez au bureau, quand vous traitez votre femme, vos enfants, regardez-nous si vous les respectez, ces êtres-là. Si vous ne les respectez pas, à ce moment-là, tout le reste que vous faites, c'est totalement pas une perte de temps, mais c'est une perte d'énergie.
Alors, il y a quelqu'un qui m'arrive à un moment donné, il me dit, maintenant, il parle d'ailleurs, les forces, je ne les vois pas. Quand on parle de relation avec les forces, ne serait-ce que de savoir que c'est pas une autre qui parle.
Ok, pour vous donner une réponse à ça. Que vous voyez pas les forces, ok, pas de problème. Vous êtes de chance, oui. Mais, dans l'affaire du respect, dans le respect que vous devez avoir, ou travailler à avoir avec l'homme, là, vous allez voir là, dans ça que c'est dur. C'est pas facile. Tu veux l'envoyer chier parce qu'elle a brûlé comme ça. C'est dur, tu dis, bon, on va aller chez McDonald's en place. Bon, ben, la petite vibration qui est dure, ça, c'est les pas.
Ah, ça, c'est intéressant. Ça, c'est
du matériel. Ça, c'est les pas.
Bon, OK.
Ça, Mais vous allez voir que ça va être parfait.
OK. Là, à un moment donné, il nous passe une vibration d'aïe. C'est comment vous faites la chirurgie en taillant la personne, puis ce qui est vrai, c'est pas supposé haïr la personne.
Haïr l'être humain, c'est une abomination.
Mais, OK.
Haïr les femmes.
Maintenant, c'est pas, je fais le point. Il y a du monde que, dans ce qui passe dans eux autres, on veut pas les haïr, mais on voudrait tasser quelque chose pour boxer à côté.
Je dis pas que c'est pas nécessaire dans la vie de créer un choc à une personne, de le tasser, qu'il y a plein de choses. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, je parle de monde avec lesquels vous êtes.
Ouais, ouais.
Vous ne pouvez pas toute votre vie être en situation de guerre. La vibration de ne pas respecter, toujours là. Faut que vous la contrôliez, cette vibration. Faut que vous en arriviez à faire la gestion de cette énergie-là. Moi, si j'arrive sur la rue, puis un gars, tu me donnes une claque, ça margouillette, c'est évident que tu vas y faire quelque chose, parce qu'il y a besoin d'une leçon. Mais,
vous avez dit, c'est quoi, là, à ce moment-là?
Sur l'inconscient.
OK.
La personne va peut-être donner 5 piastres, va pas me dire avec. On va dire 5, tu t'apprennes, c'est tranquille, tu peux pas me donner une claque dans la gueule, mais c'est pas fait.
C'est la capacité. Non, mais c'est important, parce que dans forme, là, ben, quand on est dans l'action, là, je vous jure que il y a des drôles de nuances qu'il faut faire. Vous balancez.
Balancez,
oui. Oui. C'est ça qui fait le respect.
Oui, c'est ça.
Parce qu'il y a des gestes.
Mais j'ai besoin d'un chat. OK. Tu balances.
Puis il y a une science là-dedans.
Ah, ben, c'est tout ça. C'est ça la troisième.
Parce que
je ne peux pas plomber un être humain pour être inconscient. Inconscient. Tu donnes un choc, ça te fait évoluer, tu balances. Dans ça, tu laisses en suspension.
Bon, vous avez une conscience critique. Êtes-vous des fois exaspéré par l'inconscience de votre environnement?
Non, mais je suis fatigué. Le désapprête, hein?
C'est pas de l'exaspération.
L'esprit est fatigué.
OK. Êtes-vous encore capable d'haïr ce qui passe dans un individu ou si vous haïssez juste ce qui passe par vous?
Non, j'haïs seulement ce qui passe par moi.
OK. Est-ce que quand on est en relation avec les gens, on ne doit haïr que ce qui passe par nous?
Alors, posez-moi la bonne, celle-là.
On est dans un échange avec un individu, puis il y a quelque chose qui peut créer un conflit. On sent monter un effet de moutarde. Et puis, là, on sent physiquement là, qu'on l'adrénaline nous rentre dans le cadran. Ça pousse. Est-ce qu'on doit haïr ce qui passe par nous,
oui,
seulement?
En être conscient.
OK. Il faut être conscient dans l'instantané que là, le mouvement se fait.
Ouais.
Puis il ne faut pas haïr ce qui va se passer avec l'autre.
Ou ce qui se passe avec l'autre. Ça ne fait pas partie de nous autres, ça ne fait pas partie de l'autre.
OK.
L'autre, c'est son problème à lui.
L'autre, c'est son problème. Puis... Bon. Est-ce qu'une personne qui s'occupe strictement de la gestion de ses humeurs, de ses états, a automatiquement un respect vers l'autre?
Oui. Techniquement, oui.
Pourquoi vous dites techniquement?
Parce que c'est eux.
Vous faites souvent.
Avec le sourire que vous faites là, ça doit être vraiment dur.
Ça peut dépendre de l'état. Est-ce que dans l'évolution de cette instruction-là, on parle souvent de conscience vibratoire? Bon, j'imagine que c'est notre source qui nous met en vibration. Okay. Elle nous place devant des personnes ou des individus qui sont sujets à déclencher cette mise en vibration-là. La contenance, c'est parce que là, je vais utiliser la gestion de ces humeurs-là qui peuvent venir à un moment donné. Est-ce que cette gestion-là de la mise